Nous sommes mercredi 10 avril 2024, l'armée de libération arrive et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergy.
Salut.
Ce soir, une émission exceptionnelle, extraordinaire. Voilà, vraiment une émission exceptionnelle, plus que d'habitude, hein, qui sont plutôt des émissions ordinaires. Hein, voilà. On va parler de Unicorn Overlord, parce que c'est le printemps, on a envie de faire des tacticals, de casser la gueule à des églises orthodoxes, d'éliminer des empereurs, de faire tomber des régions entières, de regagner son royaume, bref, on va faire un tactical. C'est vrai qu'on a quand même une petite tradition du tactical du printemps.
Globalement, c'est un joueur qu'on aime bien en Paris.
C'est vrai que, voilà, il y a des fans. Voilà, donc on va parler de Unicorn Overlord, on va essayer de passer tout le gameplay en revue, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement profond, essayez de vous accrocher, hein, ça vous donnera quand même un bon aperçu si vous n'avez pas eu l'occasion de faire ni le jeu, ni la démo. Mais on va commencer par un très court tour de table de l'actualité. C'est vrai que l'actualité en ce moment est un petit peu...
morte.
Voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est extrêmement compliqué. Voilà, et ça va être très simple, hein, c'est la fin du online gratuit sur console. Voilà, la Wii U s'est éteinte avant-hier à 1h du matin. Alors, entre 1h et 3h du matin, Nintendo, ce serait bien de prévenir les gens qu'on puisse s'organiser un petit peu, parce que là, c'est compliqué.
C'est à cause du décalage horaire, c'est ça? Le changement d'heure
C'est peut-être ça, ouais. Non, apparemment, ça a été une extinction progressive, donc il y a des gens qui ont été éjectés très vite et d'autres éjectés moins vite. Voilà, mais c'est fini. C'était le dernier online gratuit sur console. Hein. Je rappelle que côté de Nintendo, tout a toujours été gratuit, depuis la DS jusqu'à la Wii U et la 3DS. La Wii également avait un online gratuit. Là, maintenant, de toute façon, vous êtes obligé de raquer. Alors, ça reste les moins chers. Il faut quand même leur accorder ça. Mais le fait est, voilà, le online gratuit sur console, ben... finito. Je ne sais pas comment ça se passe du côté de Sony. Je crois pas qu'il y ait de online sur. Je crois pas qu'il y ait eu de online sur PSP.
Peut-être. Non.
J'ai un petit
sur
doute.
Sur PSP, tu pouvais te connecter à Internet, tu pouvais faire du online.
Oui, je ne sais pas.
Alors il y avait un store. Plus, c'était gratuit, je pense, au début. Enfin, sur PS3, c'était gratuit au début, puis après c'était payant.
C'est devenu payant. Ouais.
Alors, pour être plus précis, sur PS3, ça c'est resté gratuit jusqu'au bout, mais c'est le PS Plus qui était payant. Et c'est devenu obligatoire à partir de la PS4.
C'est ça. Bah, en fait, c'est compliqué quand tu permets à tes utilisateurs de jouer en ligne gratuitement au début, de dire bah, maintenant ça va devenir payant. Ça passe généralement pas très bien. Alors que si tu dis que c'est payant dès le départ, finalement...
Ouais, bah enfin, pour la PlayStation, t'inquiète, c'est rentable hein, les abonnements, je pense.
Ah, je sais pas. Apparemment, côté de Microsoft, ça commence à tirer un peu la langue sur les abonnements. Alors, plus précisément sur les abonnements Game Pass, parce que justement ça coûte très 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 cher à Microsoft.
Ah bah oui, il paye pour avoir du catalogue et l'abonnement il est pas cher.
L'abonnement est pas
ça
très
va
cher.
Augmenter, hein.
C'est ça, c'est-à-dire que là finalement les éditeurs s'y retrouvent, les joueurs s'y retrouvent, mais le constructeur lui ne s'y retrouve clairement pas. Mais l'objectif c'est d'étouffer le marché. Sauf que, de ce que j'avais cru comprendre, ça
marche pas, hein, globalement. Enfin,
ça,
c'est pas que ça
augmente
marche pas.
Moins vite que ce qu'espérait Microsoft.
Bah, disons que je pense qu'ils espéraient avoir plutôt pas mal de monde et avoir une grosse part de marché. Et au final, en fait, ils ont du mal, hein, à percer plus loin que je pense que les spécialistes, ceux qui aiment vraiment beaucoup jouer ou tester des choses sans trop dépenser. Et les gens sont quand même très attachés à leur console avec leur jeu à 60 balles, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, dans un mouvement désespéré, on dérive un petit peu du sujet d'origine, mais pas tant que ça, dans un mouvement désespéré, Microsoft commence à mettre des jeux de sport sur le Game Pass. Alors je dis mouvement désespéré, c'est pas complètement innocent, hein. C'est-à-dire que la plupart des services de streaming et ou des services de films à la demande tels qu'ils existaient il y a encore quelques années, quand ça commençait à battre de l'aile, ils mettaient du sport.
Ah, d'accord, c'est le signal, quoi.
C'est le signal que ça va pas très bien.
Bon, après, pour EA et compagnie, mettre FIFA sur le Game Pass, c'est juste avoir plus de personnes qui vont mettre de l'argent dans FIFA Ultimate Team. Hein.
Ouais, donc globalement, eux, c'est peut-être pas le mauvais plan. Hein.
Ils y gagnent. Bon, après, c'est le jeu le plus vendu chaque année, donc...
Méthode oui, de dealer.
Ça sert à quoi d'acheter FIFA tous les ans, l'avoir en abonnement, ça marche. Hein. Oh, t'as ton mercato tous les ans, t'es content.
C'est peut-être moins con, hein, mine de rien.
Bon, après, c'est juste qu'ils ne le mettront jamais. Ils mettront jamais le nouveau FIFA le jour de la sortie sur Game Pass. Hein, il sera toujours en décalé.
Bah, parce que, mine de rien, même si ce qui rapporte le plus, c'est FIFA Ultimate Team, la réalité, c'est qu'à 60 balles la boîte, quand ils en vendent quelques millions, ça doit quand même rapporter son pesant de cacahuètes.
Oh, bien sûr, bien sûr.
Surtout mais... quand c'est un copier-coller du jeu d'avant. Hein.
Mais non, la physique est complètement différente et la balle est vachement plus réaliste cette année. Ah, je vous ai pas dit l'année.
De toute façon, ça s'appelle plus FIFA.
Oui, c'est FC Football Club Sports, je sais pas quoi. FC Sports, FC...
Non, ouais, je sais plus. Tout le monde a oublié, tout le monde dit FIFA. Hein. C'est comme Twitter.
Ouais, ouais. Tout le monde dit FIFA. Bref, bah, c'était tout pour le tour de table de l'actu. C'est un peu triste, hein, mais voilà. Alors, donc maintenant, ah, si,
par contre, pour voilà. Jouer, oui. Pour continuer à jouer en ligne sur la 3DS et la Wii U, il y a le projet Pretendo.
Yes. Tout à fait.
Et ils ont même dévoilé une méthode qui vous permet de jouer avec une console pas craquée.
Oui, j'ai vu ça. En fait, il y a une petite faille alors qu'ils se gardaient sous le coude, justement. Ils ne voulaient pas la rendre publique de peur que le truc soit patché avant la fin du online officiel.
Une faille SSL qui a été introduite dans les derniers firmware de la Wii U ou de la 3DS.
Alors, de la Wii U, de la 3DS, c'est pas encore. Mais donc, effectivement, il suffit de... En fait, il suffit de...
De changer le
DNS de sa console pour pointer vers les DNS de Pretendo, ceux qui sont spécialement faits pour ça. Et en fait, quand la console fait une première requête pour aller se connecter à je ne sais quoi, y a une faille, donc ça va aller renvoyer un exécutable vers la console qui va faire que tout est connecté à Pretendo au lieu d'être connecté au serveur de Nintendo. C'est quand même une... Alors, c'est triste parce que c'est une faille malgré tout, donc ça, c'est un petit peu gênant. Mais ça permet à tout un chacun de jouer sans hacker sa console. Alors, hacker une Wii U, c'est pas bien compliqué.
Hein. C'est le moment, surtout.
Je pense qu'effectivement, c'est le bon moment. Hacker une 3DS, même ta grand-mère est capable de le faire, hein, c'est vraiment extrêmement simple. Donc, pareil.
Est-ce que, du coup, quand tu hackes la Wii U, tu peux hacker la Wii qui est dedans ?
Oui, alors la Wii qui est dedans a toujours été vulnérable, en fait. Hein. C'est un truc totalement à part.
Voilà. C'est la seule console du monde qui est en dual boot, quand même. Hein.
C'est exactement ça. Elle pourrait mettre en triple boot, puisque je rappelle qu'il y a un truc qui s'appelle Nintendont et qui permet d'aller faire booter le mode Wii de la Wii U en mode GameCube pour jouer au jeu GameCube.
Bordel.
Ben oui, mon gars. Mais c'est le même CPU, hein. C'est le même CPU.
Nintendception.
Hein. C'est ça. Alors, on nous demande pourquoi hacker une Wii U. Eh ben, c'est très simple. Tu peux dumper tous tes jeux. Donc ça, c'est quand même un truc... T'as tous tes jeux physiques, tu peux les dumper.
Tu peux récupérer tes sauvegardes.
Tu peux récupérer tes sauvegardes. Alors non, tu pouvais déjà le faire, je crois. Parce que si tu mets un disque dur, tu peux déjà les transférer.
Les sauvegardes, tu peux les copier de la mémoire interne à un truc externe.
Voilà.
Contrairement à la Switch.
Bordel de merde.
Eh bien oui. Tu peux dézoner ta console. Donc si tu achètes un jeu japonais, par exemple Yakuza, qui existe sur Wii U, mais seulement au Japon... donc tu peux aller acheter un jeu japonais et y jouer sur ta console. Je me permets de rappeler que c'était Maiden of Darkwater, Fatal Frame. Il n'existe en physique que en Europe et c'était seulement l'édition collector, 5000 exemplaires seulement. Donc si t'arrives à le choper, si t'as une console américaine ou japonaise, tu peux pareil jouer à ce jeu là. Alors après évidemment tu peux le pirater, mais bon. Voilà, donc tu peux faire des dumps, donc installer tes jeux intégralement sur un disque externe et tout ça. Et derrière, effectivement, installer Pretendo ou installer d'autres applis. Hein. Il y a plein d'autres trucs. Par exemple, il y a tout un tas de... On avait parlé de Nintendont, mais tu peux arriver à jouer à tes jeux Wii U, Wii et GameCube sur la même machine. Moi, je trouve ça plutôt sexy. T'as tout un tas d'émulateurs, donc tu as le fameux injecteur de ROM qui te permet d'aller prendre une ROM legit de Nintendo que t'as été acheté, par exemple Super Mario 64 qui est sorti sur Wii U, et d'aller injecter n'importe quel autre jeu dedans. Et donc de pouvoir avoir accès virtuellement à quasiment tous les jeux N64, quasiment tous les jeux Super NES, quasiment tous les jeux NES, quasiment tous les jeux DS. Bref. Donc il y a plein de choses à faire avec une Wii hackée, hein. Faut pas croire. Bref, nous avons terminé là ce petit tour de l'actualité qui n'en était pas vraiment un, mais c'est pas grave. On va faire avec. Et on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Unicorn Overlord, bien évidemment, puisque c'est notre jeu du jour, comme disent les Anglais. C'est composé par Mitsuhiro Kaneda, Yoshimi Kudo, Toki Takeda, Richter, Dennis Fontana Rosa et Rikako Watanabe. Ça fait du monde.
Et au premier violon, nous avons...
C'est un peu ça, ouais. Enfin, c'est composé à beaucoup de mains. Le morceau que nous allons écouter s'appelle « J'ai perdu mon truc ». Parfait, nickel.
Ah, ça c'est original comme nom. Hein.
Ouais, non mais c'est parfait. C'est parfait.
Prologue
c'est
parfait. Government.
Il s'appelle Prologue Government. En fait, le prologue est séparé en plein de parties. Et donc là, c'est la partie où on t'explique que l'île est... Enfin, que le monde est organisé comme ça. Il y a des royaumes, des machins, des trucs, des bidules. D'où le government. Voilà. Ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et donc je vais laisser Antix nous faire l'introduction détaillée du jeu. Vous allez voir, on va vous poser tout le contexte là.
Le continent de Felrith, en de grâce à 4 chiffres. La rébellion gronde dans le royaume de Cornia. Général Vamor, traître à la couronne, est sur le point de réussir son coup d'état, étape indispensable à sa conquête du continent, en tant qu'empereur du nouvel empire de Zenoria. Sachant sa défaite assurée, la reine Ilyena demande à Joseph, qui n'est pas charpentier, mais chevalier au service de la couronne, de fuir avec le prince Alain. Alain, c'est notre héros. Il va se la couler douce pendant 10 ans sur l'île de Pelevia avec ses amis Lex, Scarlett et Chloé. Un beau jour, l'Empire va débarquer et lui rappeler gentiment qu'il est un héros de Tactical aux cheveux bleus et donc il a un continent à délivrer d'un empire maléfique. Derrière ce scénario digne d'un RPG japonais des années 90 se cache Unicorn Overlord, un hommage au Tactical des années 90, justement. Pour ce faire, l'équipe de développement a fait fondre une bonne quantité de Fire Emblem, qu'il a ensuite mélangé avec du Ogre Battle afin d'obtenir une pâte bien fluide et liquide. Il va ajouter une petite cuillère de Super Robot Wars, une pincée de Final Fantasy XII, et mettre ça au four pendant 10 ans de développement. À la fin de la cuisson, on rajoute un petit glacis de dés avec des dessins magnifiquement dessinés. Franchement, c'est à tomber par terre. Et on obtient le dernier jeu du studio VanillaWare. Un studio qui serait sûrement d'accord avec cette utilisation d'une métaphore culinaire pour décrire son jeu, car comme chaque personne qui a pu jouer à des titres de VanillaWare le sait, ce sont des amateurs de bonne chère.
Bravo.
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 Merci, merci, merci.
Magnifique introduction. Ça aurait été dommage de la couper. Je suis désolé. Voilà, magnifique,
arrive,
magnifique, magnifique.
C'est les problèmes du direct, heureusement qu'on a le pouvoir du montage.
C'est ça, heureusement que grâce au super pouvoir du montage, je le couperai peut-être pas. Ouais. Non, je le couperai.
Merci le chat pour le...
Merci le chat de nous avoir prévenu, effectivement j'ai loupé un bouton en fait dans la précipitation. Voilà, donc c'est une magnifique introduction, effectivement. Alors VanillaWare, la bouffe, on en parlera tout à l'heure, on a un chapitre dédié à la bouffe.
Ah, si c'était, ouais. Si c'était que la bouffe.
Il y a tout le reste, hein, c'est quand même assez foufou.
20 pages dans l'artbook.
Sur la bouffe.
Ouais. Ah, j'ai cru que l'artbook faisait que 20 pages, je trouvais que c'était une grosse perte.
Non, mais il y a 20 pages de bouffe. En fait, il y a un artbook
ça
pour la bouffe.
Ça m'étonne pas, hein.
Bah, en vrai, si les mecs faisaient un bouquin de cuisine, je crois que tout le monde serait content.
Je vous illustré par VanillaWare.
Ah oh, putain. Tu viens d'ouvrir un king de ouf là.
Je vais appeler GastronoGeek. Eh mec, j'ai une idée de concept de livre pour toi.
Ah ouais, putain, mais ce serait une très très bonne idée en vrai. Donc, Unicorn Overlord, c'est un, comme on l'a dit, c'est un tactical qui mélange des éléments de plein de trucs. Hein. On a beaucoup d'Ogre Battle.
Pour moi, c'est vraiment le mix de Fire Emblem et d'Ogre Battle. Parce qu'on a vraiment l'ambiance de Fire Emblem, les classes, beaucoup de mécaniques.
Peut-être un peu plus de temps réel.
Et avec le temps réel d'Ogre Battle et l'histoire des squads. Alors qu'on a aussi dans d'autres jeux, genre Super Robot Wars, mais c'est quand même, je pense, plutôt Ogre Battle, ouais. Le point de départ.
Alors, on va commencer par le commencement. Donc, c'est un tactical. On a des groupes d'unités, des bataillons.
Ah, je pense qu'on pourrait commencer au niveau macro, c'est-à-dire...
Ah oui, oui, pardon.
Parce que la particularité, comme l'a souligné Mecton quand on préparait l'émission, c'est que c'est un tactical en monde ouvert, avec des guillemets.
Ouais.
Parce qu'on peut aller effectivement où on veut sur la carte, enfin, dans les limites des maps qu'on a accomplies. La seule vraie, en fait, barrière, c'est la difficulté des ennemis en face. Mais on est assez libre d'explorer, ce qui est assez inédit pour un tactical, surtout de cette façon très, très libre, en fait. Hein.
Bah, d'ailleurs, c'est pas le boss de fin qui est accessible quasiment dès le départ.
Dès la démo.
Si.
Bon, tu te fais tataner la gueule, hein. Il est niveau 40 ou 50, tu commences niveau 2 ou 3.
C'est le niveau max du jeu, globalement.
Voilà, c'est un peu logique. Mais globalement, si tu connais la faille, tu peux y aller. Hein.
Bah écoute, j'attends de voir les speedruns où ils vont directement au boss final pour lui casser la gueule. Parce que...
Ça me paraît quand même compliqué, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait.
Mais du coup, donc t'es libre à te déplacer sur la carte un peu comme tu veux, il y a juste des zones que t'as libérées et que t'as pas libérées. Dans les zones que t'as pas libérées, t'as des ennemis qui vont te foncer dessus. Et tu vas devoir livrer des mini-batailles contre eux. Si tu perds, tu retournes à la dernière zone libérée que t'as fait. Mais du coup, t'es assez libre de te balader, d'essayer de récupérer les objets cachés sur la carte, les lieux un peu secrets, parce qu'il y a pas mal de ruines à explorer et compagnie. Et trouver ben, les différents scénarios de combat, en fait, parce que c'est quand même ça le cœur de gameplay du jeu, hein, on va pas se mentir. C'est d'aller trouver les batailles et libérer le continent de l'Empire.
Voilà, tu es à la tête, en tant que prince héritier du royaume, tu es à la tête de l'armée de libération.
Si un jour, à un moment, tu te demandais qui étaient les gentils dans le jeu, tu comprends assez vite.
Oui, voilà. Par contre, ça, d'un point de vue scénario, le truc est quand même assez manichéen, on va dire. Ce n'est pas les trucs très 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 compliqués de 13 Sentinels, par exemple.
Non, c'est beaucoup moins axé scénario. Il n'est pas dégueulasse, le scénario. Il y a quand même de temps en temps des méchants, pas si méchants, des gentils, pas si gentils, voire des gentils qui pètent un plomb. Mais ça reste basique.
Voilà, on a dit que c'est un monde ouvert, c'est-à-dire qu'effectivement on se balade en temps réel sur la carte et il y a même l'heure qui défile, hein, donc on est vraiment.
C'est vrai.
On se balade là-dedans. T'as un petit côté world building, c'est Mecton qui m'a rappelé ça, mais effectivement, chaque fois que tu vas accomplir une bataille de la quête principale ou une quête secondaire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de quêtes secondaires, donc de batailles secondaires, bah tu vas pouvoir libérer une ville du joug. Du général Jean-Paul, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Alors, il s'appelle Alain, Joseph, il y a Renaud, ils ont un truc avec les noms français aussi. Il y a la même chose dans Grim Grimoire, c'est très, très perturbant. C'est peut-être le Japon. Bref, t'as une partie de world building, c'est-à-dire que tu peux aller dans une ville, tu peux aller lui faire une livraison, c'est-à-dire lui donner du bois, du fer, des cailloux. Tu vois, un truc comme ça qui fait que pouf, la ville va s'améliorer. Et en fait, tu peux améliorer tes villes plusieurs fois et stationner un certain nombre de tes unités là-dedans qui vont te rapporter du pognon.
Donc c'est pognon pareil. Et des ressources pour pouvoir reconstruire d'autres villes.
Exactement. Donc t'as un côté vraiment, effectivement, macro dans lequel tu es sur la carte du monde et tu te déplaces entre guillemets où tu veux. Alors évidemment, tout à fait. Mais quand même, t'es très 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 libre, y compris d'aller explorer la ruine que t'as vue là, la statue de licorne que t'as vue ici, le cimetière là, tu vois, au départ tu sais pas faire, et puis à un moment il y a quelqu'un qui va te permettre de faire des choses dans le cimetière et te dire, ah bah, à chaque fois que tu vas avoir un cimetière, en fait, boum, tu vas récupérer tel ou tel bonus. Tu as des boutiques un peu partout, tu as des.
Il y a les forts avec les mercenaires où tu peux recruter des mercenaires, compléter tes bataillons, les agrandir. Un petit peu plus tard dans le jeu aussi, améliorer les classes de tes unités.
Voilà, mais justement, venons-en aux unités. On est sur un tactical après tout. Donc quand on démarre une mission, qui je rappelle est sur la carte du monde, on n'atterrit pas sur une mini-carte, on reste sur cette carte du monde.
Ouais, ça se fait directement sur la carte, voilà. Ça c'est cool.
On se bat directement en temps réel sur la carte et c'est très cool.
Ce qui est intéressant parce que du coup, quand tu fais la carte, tu vois justement les ruines que tu peux explorer. D'ailleurs, c'est même des objectifs annexes que tu peux récupérer. Et du coup, quand on parlait justement de tous ces endroits que tu pouvais visiter après avoir libéré la zone, bah tu les vois pendant le combat. Donc tu sais que quand t'as fini, tu vas pouvoir aller les explorer et récupérer ce qu'il y a là-bas. Donc c'est assez cool, tu finis un combat, tu sais aussi où tu vas pouvoir aller en anticipant un petit peu. Donc du coup, ça marche plutôt bien.
Ça marche plutôt très très bien, et t'as même des trucs assez originaux, puisque alors, je sais pas s'il est dans la démo celui-là, je suis pas sûr, mais il y a un moment où il y a un marais, et en fait, bah tu vois le marais avant, donc finalement, t'as la topologie du terrain avant aussi.
Il y est. Bah, il y est. Enfin, il y a tout le jeu dans la démo aussi.
J'ai l'impression qu'il y a tout le jeu dans la démo.
Il y a tout le jeu dans la démo. Après, voilà, la démo coupe, passer un certain, enfin, un trigger de scénario ou un certain cap de niveau, mais il y a tout le jeu.
Ce qui est assez fou. Hein. Donc, si vous voulez avoir un bon aperçu du jeu, vraiment, allez faire la démo. C'est très,
oui,
très bon plan.
Elle,
hein,
elle est très, très riche pour le coup en termes de contenu. Hein.
Voilà. Si vous voulez gagner un tout petit peu de temps, il y a Jean qui a fait un petit direct dessus, une petite heure et demie justement, où il essaye de balayer tous les systèmes possibles. En fait, il l'a fait deux fois. Exprès, pour pouvoir justement faire une petite introduction expliquée. Donc ça peut être, voilà, si ça vous paraît un peu impressionnant, et c'est vrai que c'est quand même, on en reparlera.
Mais c'est, bref, très bien amené. Ce qu'on disait en off, c'est vraiment petit à petit, on t'introduit aux différents systèmes, et c'est bien.
Tout à fait. Donc, on peut explorer, là, les champs de bataille sont véritablement la carte du monde. On peut l'explorer un peu avant, donc on peut se rendre compte il y a un raccourci, il y a une ruine, ce que tu disais, il y a un fort, il y a un truc qu'il faudra aller voir après, tu le vois tout de suite. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même très bien fait, très intelligemment fait. Et du coup, comment ça se passe, ces batailles? Voilà, on va essayer de faire ça.
C'est du temps réel,
presque pas du temps réel.
C'est du temps réel avec pause active, pour reprendre des termes barbares d'amateurs de RPG sur ordinateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas des trucs qu'on a trop souvent sur console. Donc comme n'importe quel RTS, on va déployer des unités sur la carte. Alors au début, on est limité à genre 3-4 déploiements au début de bataille. Par la suite, on va pouvoir déployer d'autres unités à des points précis. En fait, en tuant des ennemis, on gagne des points de bravoure qui permettent entre autres de déployer de plus d'unités sur la carte. Ça se fait à des points spécifiques qui sont notamment les forts qu'on capture, les villes qu'on capture et le point de départ. Et en fait, on va choisir notre unité, on va la diriger vers... On va la sélectionner, on va lui indiquer un point et dire bah tu vas là. Ça peut être va stationner sur cette tour de guet parce que c'est intéressant d'être sur une tour de guet, surtout quand t'es un archer. Va attaquer cet ennemi qui commence un peu à me péter les couilles ou qui essaie de nous contourner pour essayer de choper notre point de commandement. Ou juste va te placer sur ce chemin-là parce que j'ai besoin que tu sois là en attendant de ramener tes copains. Donc tout ça, pour gérer tout ça, parce que quand même le jeu tourne à côté, il y a ce qu'on appelle une pause active, c'est-à-dire qu'en appuyant sur A, n'importe où sur la carte, autre que sur des unités, on met le jeu en pause, et ça laisse le temps de regarder ce qui se passe, de refaire les placements de ces unités, éventuellement d'utiliser des objets ou des capacités spéciales, parce qu'il y en a aussi, qu'on utilise avec ces fameux points de bravoure qu'on obtient en tuant deux mecs en face, ou en capturant des points importants. Et c'est un petit peu comme ça que ça va fonctionner. En gros, on va alterner entre laisser les personnages bouger et activer la pause pour reprendre un peu son souffle et voir ce qu'on va faire. Et le seul autre moment où on va intervenir sur le gameplay, entre guillemets, c'est quand une unité alliée va rencontrer une unité ennemie et que ça va se battre.
Oui, parce qu'il faut le préciser, on a effectivement le contrôle de finalement quel bataillon, quelle petite troupe. Alors ce sont des petits bataillons qui au départ ont 2 ou 3 unités, et à la fin, je crois que c'est maximum 6.
5 a priori.
5, ouais.
5, y a pas 6 ?
Je crois pas qu'il y ait 6.
Je croyais en avoir vu. Non, mais c'est peut-être 5. Bref.
Ouais, déjà, c'est juste pour l'intro.
Déjà, avoir son premier bataillon à 5, ça prend du temps.
Hein. Ouais, ça prend vachement de temps. Hein, parce que
ça coûte cher.
Ça coûte très cher. Alors en fait, tiens, d'ailleurs, c'est un des systèmes qu'il va falloir expliquer. Chaque fois qu'on remporte une bataille ou qu'on fait des choses bien dans le monde, on reconstruit des villes et tout ça, on va gagner de la réputation, on va gagner des médailles. En fait, pour augmenter la taille de ces bataillons ou le nombre de bataillons, il va falloir dépenser des médailles. Donc par exemple, je crois que c'est 15 médailles pour avoir un nouveau bataillon. Et ensuite, le bataillon par défaut, il a 2 emplacements. Pour en avoir 3, il faut redépenser 15 médailles. Pour en avoir 4, il faut en dépenser 50, et ainsi de suite. Voilà, je fais juste une toute petite parenthèse là-dessus. Donc on déplace vraiment des petits bataillons avec, 5, 6 unités, donc 5 unités, on va dire, sur la carte. Mais on ne décide pas de l'ordre dans lequel ils combattent. C'est-à-dire quand ils croisent une autre unité... Ils ont l'initiative, si c'est toi qui attaques, en tout cas. Tes bonhommes ont l'initiative, mais globalement, c'est pas toi qui décides dans quel ordre ils vont se battre et quel pouvoir ils vont utiliser.
Alors, globalement, ils ont pas forcément l'initiative, c'est la stat d'initiative de chaque unité qui détermine ça.
C'est une stat, ouais.
Je pensais que c'était...
Il y a une petite exception, si jamais une unité est mise au repos, donc soit en le faisant manuellement, soit en lui infligeant une défaite cuisante sans la tuer. Là, tu as ce qu'on appelle un coup rapide, et en fait, toutes les... Alors si c'est toi qui attaques une unité au repos, toutes tes unités vont attaquer avant.
Voilà, oui, parce qu'il faut préciser, alors pareil, hein, on vous livre tout ça en vrac, vous inquiétez pas, on vous introduit le système au fur et à mesure, hein, mais c'est important. Chaque unité a un certain nombre de points d'endurance, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était ça,
oui,
le petit
c'est
nombre
ça.
au-dessus de la tête. Et donc, peut finalement, ça correspond à pouvoir engager une bataille, en
C'est
gros.
ça. Il y a des moyens de récupérer de l'endurance ou de pas en dépenser, notamment quand tu défends des points importants, notamment les forteresses et compagnie. Mais quand tu arrives à zéro, ton unité peut plus bouger et si elle se fait attaquer, elle va effectivement être dans la merde.
Elle va se retrouver sans initiative, du coup, elle va se retrouver avec un coup rapide dès le départ. Et elle peut plus bouger du tout, ce qui est encore plus emmerdant. Mais du coup, généralement, la plupart des unités commencent à, je crois que c'est entre
4,
3 et
5.
5, ouais, quelque chose comme ça. Donc, normalement, il y a de quoi faire, hein. C'est vraiment il faut attendre quelques batailles pour que les questions d'endurance deviennent un vrai problème.
Oui, et puis tu trouveras très rapidement des moyens de récupérer de l'endurance. Il y a énormément de moyens de le faire. Les feux de camp, notamment, qui arrivent sur les missions un peu longues, permettent de faire récupérer à tout le monde son endurance sans avoir à attendre. Ça se pratique.
Son endurance et ses points de vie.
Aussi.
Parce que quand même. Bref, donc une fois qu'on engage la bataille.
Alors c'est escouade contre escouade, donc comme on a dit, ça va être des unités qui peuvent aller de 2 au début jusqu'à 5 en fin de jeu. C'est un peu nous qui choisissons qui est dans l'escouade et à quelle position, parce que on est sur un rectangle de 3 par 2, c'est-à-dire qu'en fait on peut mettre des unités sur deux lignes, donc la ligne d'avant et la ligne arrière, bien sûr. Tant qu'il y a des unités sur la ligne avant, à moins que tu aies un archer ou une unité qui attaque à distance, tu ne pourras pas attaquer la ligne arrière, il faudra d'abord faire tomber la ligne avant. Évidemment, il y a des classes qui sont un peu plus adaptées à être devant et d'autres qui sont un peu plus adaptées à être derrière, hein, la classique.
C'est ça, en gros, tu mets les bourrins devant et puis les magies
Les
derrière,
soutiens,
quoi.
ouais.
Voilà,
Voilà,
on va simplifier.
si ça peut tanker, ça va devant, quoi, globalement.
C'est à peu près ça.
Et du coup, après, tu peux avoir trois unités devant, trois unités derrière, en fond, mais tu les places un petit peu comme tu veux. Sachant que les positions, ça peut avoir une importance puisque tu as des compétences qui permettent d'attaquer toute une ligne ou toute une colonne, donc c'est important de savoir lesquelles. Il y a tout un système derrière, je pense qu'on abordera un petit peu après. Et pour le coup, les combats, comment ça se passe? Et bien en fait, ça va se faire plus ou moins automatiquement. Enfin, en tout cas, quand le combat est lancé, c'est comme Fire Emblem, on regarde ce qui se passe. Sachant que le résultat qu'on t'indique avant de lancer le combat sera le résultat que tu auras à la fin. Il n'y a pas de hasard.
Ouais, il est garanti. Il y a juste le petit. Alors, des fois, voilà, tu te dis, on te dit, tu vas te prendre 10 de dégâts. Tu peux te prendre un peu plus si, genre, il y a un soutien à côté que t'avais pas vu, quoi.
Alors, en fait, quand tu engages le combat, tu sais, s'il y a un soutien qui participe, tu es au courant et tu sais ce que tu prends en plus.
Mais je te rejoins, il n'y a pas de hasard.
Par contre,
C'est garanti.
ce qu'il faut, là où faut faire un petit peu attention, c'est quand tu vois notamment des pertes de PV. Savoir si c'est une unité qui va tout prendre dans la gueule et donc tomber, ce qu'on essaie d'éviter quand même, ou si ça va être réparti sur toute ton équipe. Et ça, c'est des choses sur lesquelles tu sais pas en avance, donc faut un peu jouer avec.
Pour voir ce qui se passe.
Il faut préciser en fait la victoire ou la défaite dans une bataille entre deux escouades donc n'est pas déterminée finalement par le fait qu'il y ait plus d'unités, enfin qu'il y ait tout d'un coup il n'y a plus
Que
d'unités
t'aies
ou que tu as
buté l'ennemi,
perdu,
ouais.
ou que tu as buté tout l'ennemi, en fait, est considérée comme une victoire quand tu fais plus de dégâts que le connard d'en face.
C'est ça.
Mais la répartition n'est pas donnée.
La répartition n'est pas donnée, donc c'est pas qu'est-ce qui tombe en premier, qu'est-ce qui tombe en dernier. Et en fait, ce qui est important dans cette histoire de victoire et de défaite, bon, effectivement, quand tu bats un bataillon ennemi, il disparaît de la carte et tu récupères plus d'XP. Si jamais tu fais une défaite sans la battre ou que c'est toi, bah, tu te retrouves dans cette histoire de repos dont je parlais tout à l'heure, où tu vas avoir un sévère handicap sur la bataille d'après si tu te fais attaquer avant d'avoir pu récupérer. Ça c'est intéressant parce que ça peut te permettre, même si tu les tues pas, tu peux juste handicaper une unité ennemie. Et si jamais elle commence à être dangereuse, juste l'incapacité pour quelques secondes, ce qui peut être suffisant le temps de soigner quelqu'un ou de ramener
De
les
la
bonnes unités sur.
contourner, de ramener un soutien, il va falloir qu'on aborde le système de soutien. Allons-y, le système de soutien, pouf, comme ça, on fait le truc en même temps.
Ouais,
Ouais.
je pense que c'est là où on va aborder le système de classe, parce
Alors,
qu'on l'a pas encore fait.
Ça y est.
Sur les escouades, on peut définir un chef, et ce chef a accès du coup à des compétences annexes
quand il est à proximité d'une bataille en cours. L'exemple typique, ça va être genre un magicien ou un soigneur qui serait sur une escouade à proximité de la bataille. On peut choisir de lui demander de soutenir la bataille. Donc, si c'est un magot, il va balancer des boules de feu avant le début de la bataille. Si c'est un soigneur, pendant le combat, il y a un soin magique qui va tomber du ciel, quoi.
Après, c'est pas toutes les classes, t'en as d'autres hein, qui n'ont pas d'effet de soutien. Hein. Typiquement, les cavaliers, leur intérêt, c'est de pouvoir aller vite. Très, très pratique. Ça, c'est un sous-système qui est assez... J'allais pas dire qu'il est mineur.
C'est assez simple à comprendre, on va dire.
C'est assez simple à comprendre, mais en fait, c'est important de le prendre en compte parce que derrière, bah, l'ordi l'utilise. Et c'est même parfois plus intéressant de faire tomber les unités de soutien adverses. Avant de s'occuper des gros mastodontes au corps à corps, ça fait partie des petits choix à faire, par exemple.
Tout à l'heure, on parlait de tour de guet. Par exemple, vous voulez poster un archer sur une tour de guet, ça lui donne une portée de soutien vachement plus intéressante.
Ça lui fait plus de dégâts aussi. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps.
Joli.
Voilà, donc c'est pour ça que c'est quand même important, du coup, d'avoir... les soutiens, on ne les utilise quasiment pas, je crois, sur les genres 4, 5, 10 premières batailles, et dès qu'on arrive, pas à la fin de la démo, mais pas loin, déjà on commence à en prendre plein la gueule, c'est-à-dire que les soutiens ennemis, tu vois que les ennemis commencent à utiliser les soutiens vachement, donc toi t'as intérêt en fait à l'utiliser derrière. Ça veut dire aussi que tu vas peut-être balader des unités, tu vas avoir des escouades de soigneurs par exemple, qui vont se balader un peu en slip sur la carte, et qu'il va falloir quand même faire gaffe à pas se les faire poutrer. Ouais, ce qui n'est pas forcément très simple.
Alors après, ce qui est important avec ce système de soutien, et c'est là où on revient un petit peu sur les squads et compagnie, donc on choisit un chef par escouade, mais les escouades, on peut les composer de toutes les classes qu'on veut, c'est-à-dire que votre chef peut être un soigneur, il peut être accompagné d'un général qui tank bien, et de deux mercenaires qui vont taper fort, mais ce sera quand même lui sur la... Donc au combat... Il sera largement capable de survivre, il va pas se faire poutrer aussi facilement que ça, mais c'est juste que quand il aura besoin de soutien, c'est le soigneur le chef, c'est lui qui va agir. C'est ça qui est important à retenir. Et ce système de chef, il est intéressant parce que, comme je disais, il y a des classes qui sont plus intéressantes que d'autres pour le coup. La majorité des classes d'infanterie, genre les soldats, les fantassins que tu as au début, sont pas très intéressants en chef en réalité. On va plus regarder donc les celles qui ont des unités de soutien et les unités montées, donc soit volantes, parce qu'on a des unités des volantes, comme dans Fire Emblem.
Très pratique.
Voilà. Qui sont extrêmement pratiques, même.
Parce que du coup, c'est tu as un obstacle, je l'ignore, et ça permet de faire des stratégies assez intéressantes de contournement de front ennemi en faisant le tour pour aller choper dans le dos justement une unité de soutien qui t'emmerde.
Et il me semble d'ailleurs que c'est effectivement le chef de groupe qui détermine si l'unité est volante ou pas. Donc genre tu peux avoir 4 bourrins et un griffon, si tu mets le griffon chef, bah c'est 4 bourrins volants quoi.
C'est ça, exactement, et les griffons c'est bourrin aussi d'ailleurs. Hein.
Les griffons c'est très bourrin.
Il n'y a pas de pénalité à mettre une unité volante avec des unités qui ne sont que au sol pour faire avec le chef en unité volante. Hein. Il n'y a pas de... C'est le vol qui prend le pas sur le reste. Donc c'est vraiment très intéressant. Et il y a les cavaliers, comme je disais, qui permettent de se déplacer très très vite, ce qui reste un énorme avantage. Les cavaliers sont plutôt forts dans le jeu. Avoir une unité ou juste mettre un ou deux cavaliers et le mettre en chef pour juste savoir que tu vas te déplacer vite, c'est vraiment pratique.
L'ordi le fait, hein. L'ordi sait très bien comment ça marche tout ça.
Oui, et oui. D'ailleurs, chose intéressante, on peut changer le chef en cours de bataille.
Ça, oui. Ah, ça je ne savais pas.
Ça mange un point.
Ça mange un point de bravoure, donc qui est la ressource qui permet de déployer les unités.
Va peut-être falloir qu'on explique.
Mais c'est intéressant à faire en cas de besoin.
On l'a abordé, mais c'est vrai que les points de bravoure, il va peut-être falloir qu'on l'explique. En fait, basiquement, c'est quand on démarre une bataille, généralement on a 2, 3, 4 points de bravoure. Ça dépend du niveau qu'on a, je suppose, et de la bataille.
Ça dépend de la bataille, ouais.
Voilà, et en fait, globalement, un point de bravoure, ça va vous servir par exemple à déployer une escouade. Donc ça veut dire que quand on démarre une bataille, on n'a que 3 points de bravoure, on ne peut déployer que 3 escouades. Si vous en avez 10, il va falloir gagner des points de bravoure. Comment on gagne des points de bravoure? Effectivement, en gagnant des batailles, en prenant des points stratégiques, en capturant certains points précis de la carte, on va gagner des points de bravoure en repliant des escouades, c'est-à-dire en disant celle-là elle sert plus à rien, je la replie, on regagne un point de bravoure.
Ce qui d'ailleurs peut être une stratégie aussi pour gagner du temps, de la renvoyer sur un point de la carte et de la déployer à un autre endroit.
Exactement, parce que c'est finalement, oui, c'est les points de déploiement sont communicants, c'est comme les coffres de Resident Evil, quoi. T'as pas besoin
ça,
de...
tu te téléportes. Mais d'ailleurs, le jeu t'encourage à faire ça. Hein. Il te dit clairement, c'est une stratégie. Tu peux y aller.
c'est une strat, ça fonctionne, et donc effectivement, alors le plus simple c'est de casser la gueule et à des trucs, et donc ces points de bravoure on peut les dépenser à plein de trucs, donc changer de chef je ne savais pas. Mais c'est bon à savoir parce que moi il y a 2-3 fois où j'aurais bien changé de chef.
Ça t'est pas vraiment dit en jeu, moi j'ai découvert dans la démo et je le fais pas tout le temps parce que maintenant je suis un peu sûr de mes chefs, mais de temps en temps vous avez besoin de faire un petit changement tactique, ça peut être utile. Notamment par exemple, amener rapidement avec un chevalier, une unité de soutien à une tour de guet, et t'arrives sur la tour de guet, tu changes.
Oui, tu mets un archer à la place et comme ça t'es peinard.
Voilà, ouais. Et c'est à toi de faire gaffe, parce que dans l'opération, tu bouffes des points, enfin, c'est le truc qui sert à équilibrer un peu le jeu, je trouve.
Ouais, mais quand t'es sur des batailles un peu longues, en fait, tu te rends vite compte que tu...
Oui, à la fin, ta jauge est pleine et tu sais plus quoi en foutre, et tu spammes tes capacités.
Voilà, quelle belle transition. Quelle belle transition.
Mais quelle magnifique transition, là, tu vois, quand même, c'était les professionnels de la transition. Allons-y, donc on a des pouvoirs spéciaux, j'appelais ça des pouvoirs spéciaux, mais en fait, c'est appelé capacités. Donc on peut dépenser... 1, 2, 3, j'ai pas plus que 3 moi, mais.
Je crois que c'est pas la 3 non plus, mais 3 déjà c'est les trucs vénères.
3 c'est 3, c'est vénère.
C'est la Wyvern qui tombe du ciel.
Voilà, faut expliquer. Donc quand on a une escouade avec par exemple, je sais pas, 3 unités on va dire, chaque unité a potentiellement un pouvoir spécial, donc une capacité qu'on peut activer en dépensant des points de bravoure.
Ouais, ça va être des trucs qui vont aller de. Alors moi, une de mes préférées, celle des griffons qui augmente la vitesse de déplacement de tout le monde, soigner des unités, provoquer des unités ennemies pour les obliger à attaquer l'unité qui a lancé la provocation, ce qui peut être intéressant.
Péter des obstacles, foutre le feu,
et t'as une
charge de cavalerie.
T'as des capacités effectivement purement offensives qui sont très fortes d'ailleurs, et que l'anti aime bien sortir de temps en temps, et quand tu te les prends, tu fais... Ah oui, ça, en vrai, c'est pas mal ce truc, je vais peut-être m'en servir aussi.
Ah oui, tu prends cher.
Toi aussi, t'aimes bien les plus de flèches surprises quand t'avais un plan parfait.
Ouais, putain, tu sais, tu vois, en fait, tu vois une jauge qui se monte autour de l'unité, tu fais oh putain, il va sortir sa capacité, faut que j'arrive vite. Et merde. Et alors, ma préférée de toutes, qui est disponible que chez la sorcière, c'est la téléportation.
Ah, oh, c'est hyper bourrin.
Je l'ai utilisé pour la première fois hier, l'ordi était en train de me faire une backdoor pour les joueurs de StarCraft. Je dis « Oh merde, bon bah TP
!» Alors moi je l'utilise souvent pour « Je prends un cavalier, je vais à une tour de guet, téléportation de la sorcière dessus
!» Ouais, c'est pareil, il n'y a pas de limite véritablement à l'utilisation de capacité, en dehors du fait que ça consomme des points de bravoure. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on... Si on prend une capacité qui fait, par exemple, il y a une capacité de soin qu'il y a sur tous les ecclésiastiques, je crois que c'est ça.
Ouais, bon, les prêtres, quoi.
Les prêtres, qui soignent, qui coûtent 2 points de bravoure, 2 points de bravoure, ça veut dire qu'on ne peut pas déployer 2 unités supplémentaires.
C'est ça, et sachant qu'on est quand même limité à 10 points de bravoure, alors 10, on a quand même de quoi faire. Hein. Normalement, si vous atteignez 10 points de bravoure, vous avez tout le monde sur la carte. À ce moment-là, mais... Ça peut vous dépanner ou sortir d'une situation où le truc que j'aime bien faire, c'est utiliser la seconde capacité d'Alain qui double l'XP gagné et de la filer sur les gens qui tuent le boss.
Oh putain,
c'est un ou deux niveaux gratuits, ça.
Il est en train de me donner des bonnes idées, moi, parce que j'ai 2-3 petits problèmes avec Scarlett, alors bon, bref, on en reparlera après. On en reparlera après.
Tiens, l'XP. Toutes les unités d'une escouade prennent l'XP même si elles sont KO. Ça, c'est pratique.
Si elles sont KO, elles gagnent que la moitié.
La moitié ? D'accord.
Ouais, okay. Je me suis posé la question pendant un moment et à un moment, je me suis rendu compte qu'effectivement, elles gagnaient moitié moins.
Ok.
Oui, mais déjà, c'est pas trop mal.
Mais voilà, ça peut permettre de prendre un perso un petit peu sous niveau, de le mettre dans une escouade de bourrin et de lui faire gratter de l'XP petit à petit, comme ça.
Je crois qu'on est à peu près bon là-dessus, en tout cas sur les batailles. Il y a tout l'aspect après préparation des escouades, c'est-à-dire que effectivement on a des escouades plus ou moins complètes, on essaye de faire des trucs un peu complémentaires, ce que tu me disais en off, hein, c'est les cavaliers, à partir d'un certain niveau, ils ont un truc qui augmente les capacités des cavaliers, donc en fait grouper 3 cavaliers devant et puis mettre un mage derrière, c'est vachement intéressant.
Bien intéressant, et c'est la petite discussion qu'on avait en off, la manière de grouper les unités dans les escouades. J'ai l'impression qu'on est 3 et on a eu 3 manières différentes. Quoi.
Oui, c'est un peu à l'instinct. Moi, j'essaie de faire des trucs un peu spécialisés. Alors, c'est là où il faut parler un petit peu. Je pense qu'on va un peu revenir sur les classes. Donc. C'est des classes assez classiques de Tactical. Encore une fois, si vous êtes habitué à Fire Emblem, vous allez avoir vos mercenaires, vos épéistes, vous allez avoir vos archers, vos unités volantes avec votre Wyvern et votre Griffon qui remplacent les Pégases, les cavaliers, et avec des fonctions qui sont assez proches. Il y a quelques nuances supplémentaires et vraiment une espèce d'énorme jeu de pierre-feuille-ciseaux entre les différentes classes. Genre par exemple, les cavaliers sont très efficaces contre l'infanterie au sol, mais vont se faire poutrer par les unités volantes qui elles-mêmes vont se faire casser la gueule par les archers. Les archers qui vont se prendre des boules de feu à n'en plus finir, etc., etc. Il y a une espèce vraiment de grosse synergie. Et ça a l'air un peu effrayant de se dire mais comment on va retenir toutes les classes. Ça se fait assez naturellement parce qu'elles sont introduites au fur et à mesure elles aussi.
Oui.
C'est facile de se souvenir qui est efficace contre quoi, c'est juste que quand tu commences à avoir des petits mix qui commencent à apparaître, faut quand même garder un peu le flow, mais ça se fait plutôt bien.
Il y a ce qui s'appelle la bibliothèque où à tout moment on peut aller rechoper des infos qu'on aurait zappées ou oubliées.
Et ce que fait extrêmement bien le jeu au début, c'est vous proposer des suggestions de combinaisons de classes sur vos escouades. Un exemple tout bête, c'est de dire le voleur, c'est une unité qui esquive vachement bien, donc en fait, la mettre en première ligne, c'est pas déconnant. Et puis derrière, tu peux mettre Alain, qui est une unité plutôt offensive, et qui va pouvoir aller taper sur les mecs derrière, quoi. Tout en étant en sécurité, et en risquant pas de perdre des points de vie. Ça, il y a pas mal de choses à faire, ça se développe vraiment au fil du jeu, des capacités qu'on obtient, et il y a pas mal de façons de faire. Après, moi, je trouve que D'ailleurs, c'est intéressant de regarder les formations ennemies, parce que certains boss t'opposent des formations assez compliquées à traverser.
Toi aussi, t'as kiffé la double ligne gladiateur Sylve.
Alors, j'ai pas fait Sylve.
C'est imbutable, quoi.
Et voilà, alors le gladiateur, c'est une grosse unité de corps à corps qui peut récupérer des points de vie quand elle prend trop de dégâts. Et derrière, on l'a juste avec des chamans qui peuvent réduire la force des unités. Donc en fait, en face, tu es une espèce de mur de muscles impossible à tomber qui en plus te tatane. Donc il faut vraiment être malin pour passer ce genre de choses. Donc c'est intéressant de regarder ce que fait aussi l'ordi. Ça peut donner des idées.
Voilà, je précise aussi d'ailleurs, parce que c'est un aspect important du jeu, comme on l'avait dit un petit peu avant, c'est comme dans un Fire Emblem, une fois qu'on a décidé d'attaquer, on ne fait plus rien. C'est-à-dire que c'est les unités qui attaquent automatiquement selon les règles entre guillemets du jeu. C'est-à-dire effectivement, c'est les unités qui sont devant qui vont encaisser les dégâts d'abord. Faut les tuer toutes pour pouvoir attaquer les unités qui sont derrière, sauf dans des cas où faut attaquer les lignes, les colonnes, tout ça. Et toutes ces unités ont des points d'attaque et des points de... Alors je sais, c'est PA et PP, donc je crois que c'est points d'attaque et points de...
Alors le diamant rouge, c'est pour les capacités offensives, en tout cas les capacités actives qu'ils appellent. Et les diamants bleus, c'est pour les capacités plutôt réactives, en gros qui vont se déclencher dans des conditions... Ça va aller de une riposte quand un allié se fait attaquer à un soin immédiat lorsque un allié perd des PV.
Oui, voilà. Merci beaucoup. Donc effectivement, c'est ça. Et ça, c'est l'ordre dans lequel ça va se jouer. Entre guillemets, vous n'avez pas le contrôle dessus, pas vraiment, parce qu'en fait, on peut quand même aller donner certaines conditions en disant, bah tiens, tel passif, ce serait bien qu'il se déclenche. Typiquement, un soin, si c'est un soin un peu bourrin, ce serait bien qu'il se déclenche que quand une unité descend en dessous de 50%. Et le jeu vous donne la possibilité de faire ça, c'est-à-dire d'aller effectivement donner des conditions dans lesquelles il faut attaquer, des conditions sur lesquelles faire les choses, donc ça devient vraiment de la dentelle très délicate. On peut vraiment aller décider très 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 bas ce qu'on souhaite faire à l'intérieur d'une escouade et ce qu'on souhaite faire lors d'une bataille, mais voilà, par défaut, finalement tout se déroule comme ça. On peut regarder ces batailles, ça peut donner une bonne idée de la synergie d'un groupe, mais on n'est pas obligé. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que quand vous savez que de toute façon, vous allez tataner une petite unité, vous appuyez sur plus, la bataille se déroule, les mecs meurent, merci, au revoir. Dès que c'est un petit peu plus compliqué, vous avez intérêt à jeter un petit coup d'œil pour savoir qu'est-ce qui déconne, quelle est l'unité qui marche un peu moins bien que les autres, laquelle il faudrait peut-être remplacer, peut-être renforcer, peut-être changer son comportement.
Oui, alors c'est important d'ailleurs de jeter un coup d'œil, parce que des fois, ça arrive qu'on se dit « mais l'unité, elle est pas très efficace », et quand on lance le combat, on se rend compte que, en fait, il y a une unité qui agit jamais, parce qu'on a mis une condition qui fait qu'elle va jamais attaquer.
Ouais.
C'est bien de regarder, de tester un peu. Alors, niveau conditions, on est quand même très large. Hein. Ça va de donner des priorités sur les cibles. Genre, par exemple, favoriser, avec un archer, favoriser une unité aérienne pour faire plus de dégâts. À carrément dire, cette capacité-là, tu l'utilises que si le mec en face, il a assez de points pour pouvoir attaquer deux fois, par exemple. Parce que c'est une capacité qui va empêcher le mec d'attaquer une deuxième fois, par exemple. C'est vraiment, on peut aller très 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 loin. Je pense qu'on peut passer énormément de temps à optimiser de ouf.
Voilà, d'ailleurs, c'est pas le seul truc qu'on peut optimiser, puisque en plus des placements, en plus des attaques réactives et des attaques actives, en plus des points de bravoure, en plus de tout ça, y a des armes et des équipements.
Et alors,
sinon, ce serait pas drôle.
Et si c'était facile, on aurait juste des augmentations de stats, mais non, il y a des armes qui ont des capacités spécifiques. Et tu n'auras que sur ces armes.
Voilà, par exemple, tu as des dagues empoisonnées que tu n'auras que sur une arme particulière. Ouais. Alors, heureusement, il n'y a pas de système d'usure. On n'en est pas au niveau de Fire Emblem. Franchement, je trouve ça un peu petit slip Vanillaware. Alors là, les gars, vous avez un peu déconné. Hein. Vous auriez pu rajouter une couche de ça.
Ouais, ça et la permadef.
Alors, il y a un mode permadef.
Il se débloque, a priori. Tiens, on n'a pas parlé des niveaux de difficulté, d'ailleurs.
Ah, on en jettera un petit coup de... On y fera un petit coup juste après. Donc oui, il y a une armurerie dans laquelle on peut récupérer plein de trucs. On peut récupérer tout un tas d'objets qui sont utilisables entre les batailles. Oui, c'est ça. Juste avant les batailles ou même directement comme ça.
Juste avant une bataille. Hein. Si vous sentez qu'une va se faire casser la gueule, vous pouvez la soigner intégralement avant de combattre.
Ou alors lui apporter un bonus de fou. Genre, quoi qu'il arrive, l'unité ne prendra pas d'attaque de soutien.
Ouais, et ça c'est vachement pratique. Alors il y a aussi des objets qui marchent sur la carte. Typiquement, il y a un objet pour aller plus vite, il y a un objet pour éviter de se prendre des dégâts.
Des pièges.
Des pièges sur la carte, parce qu'on peut aussi poser des pièges. Et j'avoue qu'une ou deux fois ça m'a sauvé la vie. Donc il y a vraiment. Les objets, ça devient vraiment intéressant. Moi je pense à partir de Drakengard, qui est la deuxième région du jeu. Où là, vraiment, on va tomber sur des scénarios où les sortir, ça devient vraiment intéressant. Donc faut pas les négliger non plus, les objets. Des fois, un objet dans l'inventaire peut retourner une situation assez facilement.
Ouais, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Je sais pas si on a autre chose. J'ai l'impression qu'on a un peu systèmes.
On peut aller très très loin. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un système que je trouve extrêmement complet. Pour l'instant, je trouve qu'il s'applique sur des batailles qui se renouvellent plutôt bien.
En termes d'objectifs, ouais.
Alors en termes d'objectifs, c'est un peu souvent la même chose, mais tu te retrouves dans des situations parfois compliquées. Notamment les dernières cartes de Drakengard, donc la deuxième région, il y en avait qui étaient costauds, où t'avais vraiment des situations compliquées avec des gros obstacles à passer, fallait faire attention à où tes unités allaient se déplacer pour pas se prendre une mine, par exemple. Donc il y a vraiment, je pense, vraiment de la profondeur et ça se renouvelle, et de ce que j'ai compris. C'est vraiment, ça arrive à continuer à se renouveler, voire même à devenir plus dur au fur et à mesure du jeu. Donc il y a quand même une bonne marge de progression. Et moi je trouve que la customisation est vraiment chouette, il y a vraiment plein de possibilités. On parlait des escouades, moi je trouve que c'est vraiment le truc le plus intéressant.
C'est génial, c'est génial.
En fait, penser les synergies de ces unités, c'est vraiment intéressant. Moi je me suis amusé à faire une escouade avec justement ce fameux gladiateur et les mercenaires qui en fait sont des unités de contre-attaque. Ils vont attaquer des unités ennemies qui viennent de les attaquer. Et en fait, c'est vraiment juste un truc défensif. Et à l'arrière, il y a une soigneuse pour juste faire tenir les gens pendant que ça tabasse. Et en fait, avec ce combo-là, alors qu'ils devraient attaquer que 3 ou 4 fois dans la bataille, je me retrouve attaqué une dizaine de fois.
Putain, tu peux vraiment faire des trucs.
Donc oui, tu peux faire ce que tu veux et voilà. Vous dites unité spécialisée. Moi, je travaillais plus. Je les groupais plus par scénario, quoi. Genre, tu vois, le frère va se battre avec sa sœur, machin, avec l'oncle en soutien derrière, tout ça. Et pourquoi je dis ça, c'est à cause du système de soutien, alors qui est complètement optionnel.
Alors, qui n'est pas le système de soutien à balancer des boules de feu en combat. Hein.
C'est le système de soutien social.
Exactement. Et il est complètement optionnel, alors il sert pas à grand chose à part faire du développement de personnages. Et voilà, si vous êtes client de ça, c'est cool.
T'as des petits bonus de stats dans l'équipe. Plus 2, plus 3, mais après on parle d'un jeu où globalement atteindre les 30 points c'est difficile.
Ouais.
Donc c'est pas inintéressant.
Mais voilà, c'est si vous aimez la partie écriture, elle est là. Mais elle est optionnelle si vous voulez juste focus sur un jeu de stratégie.
Est-ce qu'on touche un tout petit mot de la difficulté avant de passer aux autres aspects du jeu sur lesquels il faudra qu'on fasse des gros compliments à Vanillaware?
Alors, comment parodier ça? Le mode normal, c'est le mode facile. Le mode tactique, c'est le mode normal. Et j'ai pas essayé le mode hard.
L'anecdote, c'est que le mode normal du jeu a été rajouté dans la démo. Elle était pas présente dans la démo, elle était mise dans une mise à jour.
Ils sont pétés d'amour, quand même.
Et alors, en tactique, honnêtement, si vous êtes habitué de Fire Emblem, c'est juste ce qu'il faut de difficulté. C'est pas très dur. Enfin, c'est pas
très d'accord.
Dur. C'est pas difficulté Fire Emblem Engage en hard, mais ça c'est bien relevé quand même.
Je dirais qu'on, moi j'y joue en normal parce qu'en fait je suis vraiment parti sur le truc un peu par défaut. Et déjà on peut prendre des bonnes pétées hein, si on n'est pas bien préparé. Donc moi je dirais que c'est bien aussi. Mais effectivement le mode tactique a priori, si on a vraiment l'habitude et qu'on se sent capable de prendre en main tous les systèmes comme ils viennent et vraiment d'optimiser couche par couche le truc à chaque fois qu'une bataille arrive et qu'il y a un nouveau système qui est introduit, on se sent capable d'y aller. Franchement je pense que ça se fait bien.
Ouais, il se fait la difficulté du coup en mode tactique, pour moi elle viendra du chrono. Parce qu'on n'a pas dit, les batailles sont limitées dans le temps. Il faut terminer une bataille avant la fin d'un chrono, sinon elle est considérée perdue. Quoi.
Ouais, je trouve qu'il est un peu anecdotique le chrono. Alors, en ce moment, les batailles que je fais, je me souviens même plus qu'il existe. Hein.
Voilà, elles sont larges, mais j'ai eu quelques escarmouches. Donc, alors, c'est des batailles qui sont sur la carte du monde, mais qui sont vraiment très très courtes dans des espaces très restreints.
Ah oui.
Où il m'est arrivé du coup de cramer le fameux objet qui te dit, bon bah t'as le droit à un deuxième chrono. Quoi.
Oui, très généreux le jeu d'ailleurs avec cet objet.
Oui. Mais de manière générale, le chrono est un problème dans certaines batailles, mais c'est vraiment... Faut aller un peu chercher la merde, j'ai envie de dire. Écoutez, on va se faire une petite pause musicale, comme ça on pourra parler des derniers aspects du jeu. Ça dure un tout petit peu moins de 2 minutes, c'est toujours extrait de la bande originale de Unicorn Overlord. Le morceau s'appelle Disturbance.
Ah, et si vous voulez, il y a une version 16 bits de la oui. BO, alors qui existe en CD dans le collector, mais qui est aussi dispo sur YouTube, je crois.
Oui, c'est pas très dur à trouver sur YouTube. Et normalement, d'ailleurs, les os doivent être disponibles sur Spotify ou dans pas très longtemps.
Tout à fait. Alors après, ceux qui ont acheté la collector parce que c'est des trous, ils ont le CD avec la bande originale vieux 16 bits, voilà. Mais bon. Donc Disturbance. Bande originale de Unicorn Overlord, c'est les mêmes compositeurs que tout à l'heure, je ne vous la refais pas. On se retrouve dans un tout petit peu moins de 2 minutes. A tout de suite. Et nous voilà de retour. Et donc, on va évoquer le reste de Unicorn Overlord, hein, c'est-à-dire les autres aspects, on va dire, un peu plus techniques, direction artistique du jeu.
Est-ce qu'on dit Unicorn Overlord ou est-ce qu'on dit Surseigneur de Licorne?
Mais on peut dire les deux, monsieur. On peut dire les deux. Parce qu'on est français ici. Bah attends, il y a des mecs qui s'appellent Renaud, Alain, Serge. C'est bon, on peut dire ce qu'on veut.
Est-ce qu'il y a Jeanne aussi?
Je sais pas s'il y a Jeanne, mais je trouve que les noms féminins sonnent plutôt ont plutôt tendance à sonner germanique, alors que les noms masculins ont plutôt tendance à sonner français. Alors, parce que je pense que vu du Japon, on doit tous avoir la même gueule, tu vois.
Ouais, puis c'est exotique pour les Japonais. Et d'ailleurs, quand tu recrutes des mercenaires, donc des PNJ, vraiment des no-name, tu peux leur choisir leur prénom, alors tu peux pas l'écrire, mais du coup tu peux voir toute la liste. Et vraiment, je pense que les gars sont allés... Alors, non-européens. Ils ont fait copier-coller.
C'est marrant, ça.
Pour l'anecdote, les deux premiers mercenaires que j'ai recrutés pour compléter des trous dans mes unités, Mireille, Mathieu.
C'est parfait.
Écoute, moi je me suis fait un archer qui s'appelle Hubert, qui est vert et qui est en hommage à OSS 117. C'est Hubert.
Voilà, c'est quand même assez...
C'est gros.
Alors, c'est un jeu VanillaWare. Pour ceux qui ne connaîtraient pas VanillaWare, déjà, honte à vous.
Attends, JBC, non, mais c'est un anneau.
Est-ce qu'Alain, il a une pierre magique dont il ne se sépare jamais? Oui, il a un anneau magique pour... voilà. Bon, on va en parler.
L'anneau de la licorne, le fameux.
Le fameux. Donc, c'est un jeu VanillaWare, ce qui veut dire qu'il a ce style, cette patte, un petit peu comme des jeux comme Grim Grimoire, Muramasa de Demon Blade, on parlait de Dragon's Crown, on parlait
c'est,
de...
C'est de la 2D de haute qualité.
C'est ça.
Et c'est vraiment avec un style et une direction artistique qui est vraiment très spécifique au studio, ça se repère au premier coup d'œil. Peut-être un petit peu moins dans celui-là. Oh, Et encore parce que tu vois les mecs se déplacer dans les cinématiques et t'es là genre oui bon c'est VanillaWare, c'est les mêmes animations.
C'est ça. C'est-à-dire que sur la carte, on pourrait presque croire à un jeu de DHD de Square.
Ouais.
Sauf que les personnages sont pas aussi pixelisés, on va dire. Par contre, dès que t'arrives dans une cinématique, oui, t'as les grands bonhommes, les grands bonhommes en, comment dire, en JPEG, hein, j'ai envie de te dire.
Éclairages.
Tout est animé, les éclairages.
Ce qui est extrêmement drôle d'ailleurs, parce que comme c'est des sprites, quand ils se retournent, ils passent gaucher.
Bah oui, c'est ça, oui. C'est le fameux Sagat, quand il se retourne, il c'est le droit, c'est le gauche.
C'est Vega qui change sa griffe de main.
C'est ça. On est exactement là-dedans, mais par contre, c'est d'une qualité assez remarquable. C'est absolument magnifique. Comme d'habitude dans VanillaWare, c'est hyper chargé. Et en fait, ça fait partie du style. Hein. C'est très, très, j'allais dire, très baroque finalement comme style, dans le sens où t'as l'impression qu'il y a des détails qui fourmillent d'absolument partout. Je veux dire, même dans les menus, t'as des bouts de trucs animés absolument partout. T'as des flammes, t'as des machins, t'as des pots dans le logo. Quand tu finis une bataille, t'as le fameux truc où t'as, boum, tout d'un coup, des lances, des machins, des licornes qui pop. Enfin, il y en a partout, on en prend plein les yeux en permanence.
C'est n'importe quoi, mais c'est génial.
C'est fou, quoi, d'avoir ce style tellement reconnaissable, tellement...
Les mecs sont même tellement confiants dans leur style qu'il y a un menu qui s'appelle le registre des classes, et en fait, c'est juste un moyen de regarder les animations.
Mais c'est vraiment... Les gars ont confiance, et ils ont raison, hein. Franchement, ils ont atteint, je pense, un niveau de maîtrise de ce style et de cet art, finalement, d'un jeu en 2D, pas réaliste, mais... C'est compliqué à décrire, même.
C'est pas réaliste, mais tu sens qu'ils ont un style, ils s'y tiennent. Enfin, même quand tu regardes, on part avec 13 Sentinels, tu vois l'affiliation. Tu sens dans le design.
Muramasé, Odin Sphere, tout ça, tu sens que c'est toujours le même truc. C'est juste, c'est devenu de plus en plus HD, entre guillemets, au fur et à mesure.
Enfin, ils maîtrisent, quoi. Et là, je pense que c'est vraiment c'est peut-être un de ceux où, justement, il y a le plus de moyens et de style dans les designs. Et c'est vraiment léché, parce qu'on parle de beauté visuelle, mais enfin, en termes de DA et de recherche, notamment au niveau des costumes, moi j'ai eu des bonnes surprises. Enfin, la classe des épéistes, c'est tous des mousquetaires, je trouve ça génial. Ils ont mis des tenues de lance-quenée, donc qui sont des mercenaires espagnols, qui n'est pas forcément le truc qu'on sort le plus dans les trucs de heroic fantasy. Et ben là, t'as une classe, ils sont habillés comme ça. Bon, accessoirement, les nanas qui les portent, elles ont les jambes à l'air, parce que c'est VanillaWare, et que les personnages féminins, ils sont un peu canons.
Voilà. C'est ce que nous dit Jean dans le chat, c'est des très jolis dessins, et puis il y a des gros tétés.
Ah bah,
alors,
quand tu obtiens la sorcière pour la première fois, t'es là genre « Ok !»
Bon, ça va, la sorcière, elle dandine un peu du cul.
Et c'est marrant parce qu'à un moment, il y a un mec qui lui fait « Mais vous êtes sûr pour la tenue ?» Elle dit « Ah oui, mais c'est plus pratique pour lancer des sorts. »
Oui, monsieur. On en est là. Alors, c'est moins abusé quand même que dans Dragon's Crown, où il y avait une sorcière qui avait vraiment une paire de loches descendait jusqu'à la table, et c'était beaucoup.
Il fallait l'avoir courir à la sorcière.
Alors, là, on est plus dans 13 Sentinels, quoi, dans un truc un peu plus plausible.
Oh, plausible vite fait quand même, il y a des trucs.
Ah, ça reste quand même très sexy, hein, sur la partie féminine.
Alors, sur la partie masculine aussi, hein, excusez-moi,
c'est,
mais...
C'est tous des beaux gosses.
C'est tous des beaux gosses. Alors, ok, le
sauf
héros
Bruno.
A les cheveux bleus. Sauf Bruno.
Oh, pauvre Bruno, moi j'adore.
Moi j'aime beaucoup Bruno. Je suis très client. Bah, déjà, il s'appelle Bruno, je trouve ça.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, je précise, hein, les noms sont en français, même en japonais. Hein, c'est-à-dire qu'en japonais, ils sont là, genre Otunagi, Tokudaki, Bruno des.
Bruno.
Génial. C'est à mourir de rire.
Génial, génial. Ah, tiens, on n'a pas dit jeu doublé en anglais, texte
en japonais.
Et en japonais aussi.
Mais texte en français.
Texte en français, les doublages sont plutôt de bonne qualité d'ailleurs, hein, faut le dire. Que ce soit en anglais ou en japonais, hein, il y a bien les intonations qu'il faut là où il faut. Donc c'est animé de fou, c'est beau, enfin moi je trouve ça beau à tomber, mais c'est vraiment, c'est une patte spéciale. Hein, soit on accroche, soit on n'accroche pas. Je veux bien reconnaître que c'est pas toujours évident d'accrocher à ça.
C'est tellement beau que quand tu vas à la taverne, tu baves devant la bouffe.
Ah, il fallait qu'on parle de la bouffe.
C'est vraiment un point du conducteur, hein, pour vous dire à quel point c'est important dans les jeux VanillaWare, la bouffe.
Ah oui, mais la bouffe. Mais tu sais, Muramasé, le truc, c'était vraiment, t'allais au restaurant et t'avais la bouffe et t'avais vraiment les plats traditionnels japonais que la meuf mangeait en trois morceaux. Et là, tu retrouves exactement la même chose, quoi. Alors, t'as des spaghettis bolognaises, t'as des burgers, t'as des pizzas, t'as... Mais ça fait envie, t'as envie de les bouffer tellement elles sont belles, tellement elles brillent de gras. Enfin, c'est
non, mais génial. C'est incroyable. Même dans les pubs McDo, les burgers n'ont pas autant envie, quoi. Pourtant, c'est que c'est des faux. parce que c'est là où les embellissent de ouf.
Mais ce qu'on se disait en off, c'est que ce serait intéressant de faire un gastronomique X Vanillaware, quoi. Il y aurait vraiment quelque chose à faire. Hein,
ah, ouais, voilà, un livre de cuisine Vanillaware avec. Enfin, ces trucs sont incroyables. Alors, c'est une phase de jeu qui dure 20 secondes à tout casser, qui sert juste à augmenter les soutiens entre les unités, comme dans Triaosos. Mais c'est vrai que la première fois, j'ai enfin débloqué la taverne, j'ai fait bon, on va faire tous les menus parce que j'ai envie de voir, quoi.
Et puis en plus, c'est le genre de truc, c'est le genre de jeu qui te donne. Enfin, tu vois, ça te donne envie de bouffer, quoi. Tu vois, le truc, t'as juste envie d'aller te faire une grosse pizza derrière, quoi. C'est impressionnant, je trouve. C'est là que tu vois le degré de qualité, mais je pense que Vanillaware, à mon avis, quelque part chez eux, dans leur studio de développement, il y a un gros dossier partagé où il y a écrit bouffe, et en fait, il y a tous leurs assets de bouffe depuis le début.
Bah, je pense qu'ils ont un partenariat avec les restaurants du coin.
Alors, Jean sur le chat nous dit ce qu'il faudrait faire, c'est Cooking Mama X Vanillaware, je suis d'accord.
Avec la sorcière de Dragon's Crown.
Avec les tétés de Dragon's Crown, comme ça, on serait bien. Voilà. Je vous propose de faire un... Alors, le jeu tourne... on va quand même terminer sur l'aspect, on va dire, un peu plus technique d'EA. Le jeu tourne à 60 FPS.
Je fais juste une virgule, oui, sur l'aspect financier. Parce que ça, là, je vais vomir des arcs-en-ciel, mais donc Vanillaware, c'est un studio qui a une petite trésorerie. Et l'anecdote, c'est que donc, le développement de ce jeu... Alors, ils ont eu l'idée il y a 10 ans. Je sais pas s'ils ont bossé 10 ans dessus, mais bien une bonne paire d'années. Et l'anecdote, c'est que pour boucler le développement, c'est donc Georges Camitani, le PDG du Bouzin, qui a mis de sa poche, en fait.
Pour sortir, mais...
Ils étaient endettés parce que 13 Sentinel, c'est très, très, très mal vendu. En plus d'avoir pris du temps et de développer aussi.
Putain, c'est moche, putain.
Et après, bon...
Choisis, bordel.
Vanillaware, ça reste globalement des succès d'estime, hein. On va pas se mentir. Mais là, Unicorn
Overlord, on est quand même à 500 000 unités vendues, sachant qu'ils étaient en rupture de stock et que ça va être stocké. Ouais, il y a moyen que ça finisse en petit succès. Enfin, tu vois, succès quand même.
C'est pas impossible qu'ils atteignent le million.
Ce qui serait un très beau score pour Vanillaware.
Et tout ce que je leur souhaite. C'est tout ce que je leur souhaite parce que le jeu est très très chouette. Bon, ça, c'est une super nouvelle pour le coup. Mais c'est un jeu avec beaucoup d'amour. Alors, quand on regarde bien, on se rend compte qu'effectivement. Il y a des endroits où ils ont dû couper un petit peu. Au début du jeu, t'as des boss qui ont des têtes un peu spécifiques, et puis après 10 heures de jeu, ils ont tous une tronche de méchants génériques.
Ou des casques.
Ils ont tous des casques. Donc tu sens qu'effectivement, il y a un moment, bah, le budget, il est pas allé dans le design des personnages.
Non, il est dans la bouffe.
Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a certaines classes où t'as pas beaucoup de personnages jouables, et qu'ils ont inclus des mercenaires génériques... que tu peux customiser pour justement compléter
possible.
Ces mecs qu'ils ont pas eu le temps de faire, je pense. Mais voilà, après, le jeu reste quand même ultra complet, hein. Et il n'y a pas de DLC prévu.
Le jeu déjà hyper complet, il faut que vous vous rendiez compte, encore une fois, hein, imaginez, la durée de vie de la démo, c'est 7 heures. Alors, quand on prend son temps, hein, je dis pas le contraire, mais putain, 7 heures de démo. Quel jeu t'offre 7 heures de démo, quoi. C'est quand même assez fou quand on y pense. Et le jeu lui-même, visiblement sur le dojo, je crois que sur le forum, il y a Konino qui a dit qu'il avait fini en un peu plus d'une cinquantaine d'heures. Et je pense que... Je suis pas certain qu'il l'ait rushé, mais je pense qu'il y a moyen de mettre beaucoup plus de temps que ça si tu commences à te dire, bah, je vais monter les villes, je vais prendre mon temps, je vais faire les quêtes secondaires.
Oui, il y a des quêtes next après que t'aies fini le jeu aussi.
Voilà, il y a... Alors, il y a apparemment un New Game Plus qui ne se débloque que... après avoir fini le mode permadeath, si je dis pas de bêtises, c'est...
Dans le mode permadeath, ça va être un bon challenge, ça. Hein.
Je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Là, ça peut devenir... Enfin, je vois déjà certains boss où ça va être plus que tendu. Hein, on va pas se cacher.
Je vois les fans de Fire Emblem qui aiment bien faire des runs un peu défis, s'amuser avec ça. Hein.
Faudra que je lui demande comment est géré le permadeath. Si c'est genre une unité dans une escouade meurt, elle meurt. Ou si,
bon, ça, c'est dur.
Si, ou si c'est uniquement quand toutes les squads a dégagé que bah, tout le monde est mort. Quoi.
Putain, les deux seraient tendus en vrai.
Il y en a un qui serait plus tendu que l'autre.
Oui, c'est clair.
Un petit mot sur l'histoire, peut-être.
Un petit mot sur l'histoire pour terminer, c'est ce que j'allais dire.
Et la technique
2.
Bah, je t'ai coupé, tu disais le jeu tourne
non,
très
non,
bien.
Mais le jeu tourne à 60 FPS, c'est.
Il aurait ramé, ça aurait été vraiment décevant.
Ça aurait été un peu décevant. Bon, Vanilla War, de manière générale, c'est quand même des jeux. Vous l'avez compris, c'est quand même des jeux 2D. Donc.
Ils savent soigner leur technique hein, pour le coup. Hein. C'est... Oui. Il y a assez peu de jeux. À part Infernity Sentinel, le boss final où ça rame.
Alors, j'allais dire. On avait dit que ça ramait, je fais un addendum là-dessus. Pour moi, c'est même cool que ça rame à ce moment-là. Ça rajoute de l'épique sur cette fin de jeu de fou.
Oui, et puis ça permet de voir ce qui se passe.
Ouais. Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même un jeu qui est, entre guillemets, un petit peu plus impressionnant que, par exemple, un autre... j'hésite à dire Tactical, c'est un petit peu plus compliqué que ça, qui était Grim Grimoire. Tower Defense, qui est peut-être... Je dirais le. Enfin, moi personnellement, ça m'a pas vraiment plu. Hein. J'ai vraiment eu du mal à accrocher au concept. Mais voilà, c'est pareil, avait une petite tendance à ramer à partir de, on va dire, à peu près la moitié du jeu. C'était un peu relou parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'unités. Là, même quand il y a énormément d'unités sur, encore une fois, une carte gigantesque, puisque bah, c'est la carte du monde, le truc bouge pas, quoi. Donc ça, c'est quand même une très 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 bonne chose. Le petit point histoire pour terminer, sachant que. Alors, l'histoire.
Alors, petit.
C'est pas 13 Sentinel. Voilà.
Petit flashback. Non. Vous vous souvenez du pitch que je vous ai fait au début du jeu? Bon, ça va pas beaucoup plus loin en réalité. Hein. C'est vraiment. Y a l'Empire méchant, très très méchant. On a Alain, le héros, très très gentil. Très transparent aussi. Hein, pour le
oui,
coup.
Le héros, et c'est vraiment. Tu l'incarnes véritablement.
C'est plus. Alors, Alain et Joseph, c'est vraiment le. Bon, bah, c'est les clichés de base. Hein. Le preux chevalier. Même si Joseph a un peu plus de profondeur. Alain est un peu vraiment basique.
C'est le passe-plat, ouais.
Ouais. Et finalement, c'est plus les autres personnages qui sont intéressants. Moi, j'ai pensé surtout à Virginia, qui est sa cousine, qui est donc là aussi une noble, mais qui a un état d'esprit en mode... Elle sent qu'il boue en permanence, la nana. T'as l'impression qu'elle veut casser la gueule à tout le monde. Enfin, elle passe son temps à vanner le prince d'un autre pays. Enfin, moi, je la trouve incroyable. Elle me fait beaucoup marrer, par exemple.
Je trouve que, de manière générale, d'ailleurs, les personnages secondaires sont entre guillemets presque plus intéressants que le personnage principal, c'est-à-dire que finalement chaque mission secondaire va se centrer autour d'un personnage qu'on va généralement pouvoir recruter.
Oui, c'est souvent l'introduction d'un perso. Hein.
C'est ça. Et en fait, cette petite introduction peut donner pas mal de trucs. Je sais pas si y a un des personnages, moi ça m'a un peu marqué, où en fait pendant la bataille, tu peux aller lui parler avec une certaine escouade. Donc quand tu vas lui parler avec une certaine escouade, tu peux la battre derrière, mais en gros, elle s'enfuit en mode vous êtes tous des connards, je me casse. Et en fait, elle finit par revenir sur sa décision dans la cinématique de fin, parce que finalement, elle se dit, mais non, mais en fait, c'est marrant de rester avec des voleurs, mais c'est pas ça mon destin, quoi.
Ouais.
Et t'as quelques petits éclairs comme ça, sur des micro-histoires, finalement, puisque chaque fois qu'on débloque un personnage, chaque fois qu'on joue un chapitre secondaire, c'est une petite histoire. Il y a un petit dialogue de début, éventuellement un petit dialogue de milieu, un petit dialogue de fin. Je trouve que là-dessus, le jeu est pas mauvais en termes de te raconter des petites histoires du nord de telle contrée dans lequel il se passe ça.
Et puis c'est assez sympa parce que des fois dans les batailles, t'as vraiment un peu des retournements de situation, des objectifs annexes qui vont popper, qui vont t'obliger à revoir un petit peu ta façon de faire. La première mission de Drakengard, donc qui est le deuxième pays que tu vas visiter, tu fais ta bataille normalement et puis à un moment, t'as une prêtre qui pop sur la carte après une cinématique. Elle est genre au milieu, elle risque de se faire attaquer, et en fait, il y a tout un scénario où l'intérêt c'est de la recruter, pour ensuite l'emmener parler à la personne qui l'a libérée, pour recruter cette personne dans ton équipe. Et ça rajoute effectivement un peu de fluff dans les batailles, et c'est ce que je trouve un truc qui est très très chouette dans les tacticals, c'est quand, au milieu d'une bataille, bah t'as un élément de scénario, qui va un petit peu changer la donne, qui va te faire revenir un peu sur ta stratégie, mais sans que ce soit du genre les mecs qui popent dans ton dos et t'as 30 secondes pour revenir au point de départ sinon t'es mort, quoi. C'est vraiment chouette. Et ça, pour le coup, Unicorn Overlord, il le fait bien.
Sinon, du point de vue de l'histoire, donc on a eu une petite introduction tout à l'heure, on se retrouve très rapidement à récupérer... je pense que c'est un des points que je précise parce que moi, ça me fait pisser de rire. Tu hérites de ta maman, donc qui a confié à Joseph, on rappelle, le proche chevalier qui, au tout début, t'a sauvé en t'emmenant sur l'île de Perevia pour te... te... comment dire, éviter que tu sois, que tu tombes toi aussi sous le joug de l'empire de Zenoira. Ça ressemble un peu à Hémorroïde d'ailleurs, ce truc.
Ouais, Zenovia. Bon, après, on s'en fiche un petit peu, c'est les méchants.
C'est pas très grave.
C'est le méchant empire maléfique.
Le méchant empire maléfique qui est pas bien. Donc, ta maman, avant de mourir, a confié la pierre de licorne. Est-ce que ce serait le titre du jeu, éventuellement?
Ouais, l'anneau de la licorne, dans un jeu qui s'appelle Unicorn Overlord.
Ce serait quand même étonnant. Et moi, ça m'a vraiment fait marrer. C'est-à-dire que tu débarques, le premier méchant que tu bats, en fait, bah, il n'était pas vraiment méchant. Il était manipulé depuis le début.
Ah ah, par un sort.
Et par un sort de contrôle mental des méchants, puisque c'est comme ça que ça passe. Mais en le touchant avec l'anneau de la licorne, tu le libères. C'est bien fait quand même. Hein.
Alors moi j'ai trouvé que c'était un peu nul ça.
C'est absolument à chier, c'est ça qui me fait mal.
Moi ce que je trouvais dommage c'est genre, ah mais en fait du coup il y aura jamais de traite dans le jeu. C'est trop dommage, ils vont tous être possédés. Moi j'aime bien quand il y a un peu de drama.
Tout à fait.
Ce serait du spoil. Mais...
Il y en a quand même quelques-uns qui sont pas comme ça, il y a des vrais méchants. Ce qui est bien, c'est que c'est un ressort qui est utilisé lors de la première mission pour que tu comprennes un petit peu finalement l'enjeu du truc. Mais dès la deuxième mission, c'est un autre. Enfin, tu vois, c'est un mec qui est absolument pas possédé, c'est juste un sale con. Donc, t'as le choix effectivement. T'as régulièrement le choix de l'épargner ou de l'exécuter, de le laisser partir ou d'essayer de le recruter. Enfin, tu vois, je trouve que le ressort est un peu gros. La ficelle est un peu grosse, mais elle est pas utilisée tout le temps, donc. Ça passe.
Oui, non, globalement, c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas, mais moi, c'est vrai que je me suis dit que c'est dommage parce qu'il y aurait vraiment à y avoir des trahisons et tout, et pour l'instant, j'en ai pas trop vu, quoi. Alors que j'aime bien, moi, ces moments de trahison dans les scénarios.
Surtout que là, il y en a quelques-uns, ils ont les cheveux rouges, ou même ils sont blonds avec les cheveux longs, donc ça pourrait être des traîtres. J'ai japonais, je veux dire.
Alors, s'ils ont une petite taille, c'est encore plus vrai.
Il faut qu'ils croisent les bras.
C'est ça. Avec un air ténébreux.
Et un petit rire sardonique.
Les choix, on est d'accord qu'il faut la jouer gentille, très très gentille, si tu veux recruter le maximum de monde.
Oui, ça dépend. Il y a des trucs un peu surprenants parce que des fois, quand tu refuses quelqu'un, en fait, ça te permet d'en recruter un autre.
C'est ce que j'allais dire. Il me semble avoir eu un choix où l'impression que j'avais, c'était peut-être que si j'avais fait l'autre choix, j'aurais eu l'autre unité à la place.
À quel moment ça?
Alors c'est une des batailles secondaires qui est dans le sud du tout premier pays.
C'est genre avec l'archer là?
C'est un truc avec les deux voleuses, enfin le genre le voleur et son cousin, un truc comme ça.
Ok.
J'ai plus les noms exactement.
Ah.
Où en fait si tu épargnes le mec, tu le recrutes, mais son frère se barre, genre. Et si tu refuses de l'épargner, son frère te rejoint. Enfin, quelque chose comme ça, tu vois. C'est une espèce de compas de moralité. Bon, après, ça dépend aussi si t'as besoin de l'unité ou pas, on va être honnête,
oui,
mais des fois, t'as pas besoin.
Là, pour le coup, on voit, le jeu te dit, bah, tu vas absolument avoir besoin d'un archer, quoi qu'il arrive, je t'en file un, quoi.
C'est un peu ça.
Et moi, Antix, je pensais la fin de Drakengard, où il y a un choix, et en fonction du choix, l'impression que j'ai, c'est que c'est l'un ou l'autre des personnages qui te rejoint, et l'autre qui reste sur place. Quoi.
Ah oui, d'accord, ce choix-là. Moi, j'ai les deux dans mon équipe, donc...
T'as les deux? D'accord, bah moi, j'en ai un qui est resté sur place. Ok.
Ah, t'as pas fait le bon choix, alors.
Donc, il y a peut-être un choix particulier.
Ouais.
Est-ce qu'on a fait le tour? Il me semble qu'on est pas mal. Au bout du conducteur.
On est plutôt bien, hein.
On est plutôt bien.
Je voudrais juste rajouter un truc sur l'histoire. C'est effectivement assez cousu de fil blanc et assez simple, mais c'est pas trop bavard. C'était un peu ma crainte. Que ce soit... Ça n'est pas grand-chose à dire et que ce soit long. Mais en fait, c'est plutôt rapide. Donc, même si vous n'êtes pas trop dans l'histoire, en fait, les dialogues, ils prennent pas trop de temps.
En vrai, je suis assez d'accord. Déjà, tu as le défilement automatique des dialogues. Tu peux même régler le temps de pause entre chaque phrase dans les options, ce qui est quand même assez cool.
Ce qui est assez rare, d'ailleurs.
Et puis, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que je trouve que, moi, d'habitude, quand c'est trop long et que ça traîne en longueur, ça me casse vite les bonbons. Je trouve que ça se suit très bien en fait. Et encore une fois, le fait d'avoir finalement une grande histoire et des petites micro-histoires à chaque fois que tu as une petite mission secondaire, un machin, t'as vraiment juste un micro-scénario qui se joue où tu essaies de comprendre les enjeux, le pourquoi à tel endroit dans tel village il se passe ça. Je trouve ça assez cool parce que finalement, ça te fait une petite histoire qui te permet de compléter la grande histoire.
Puis souvent, t'as des personnages secondaires d'une des annexes qui reviennent dans la suivante pour justement mettre un petit bout d'histoire, donc ça c'est cool.
Ça c'est chouette, et on parlait de la boucle de gameplay, du coup, du fait que les petites introductions, tout ça, soient courtes, ça permet des parties rapides, c'est chouette.
Oui, on peut vraiment faire, on peut y jouer sur les chiottes, hein, littéralement. Oui, ouais, c'est pour Méduse, hein. Ça nous fait plaisir. Mais ça peut être un très bon jeu de chiottes. Hein.
Oui, les batailles sont pas si longues que ça aussi. Ah, non, même les plus longues, finalement. Bon, c'est les plus longues, tu vas en avoir pour une demi-heure, mais.
C'est ça. Mais une demi-heure, quand ça va durer longtemps. Mal, en vrai, hein. Quand ça va durer longtemps, le scénario te le laisse comprendre avant, quoi.
Tout à fait.
Oui, de toute façon, tu peux sauvegarder quand tu veux, donc au pire.
C'est vrai. Que ça se fait assez bien. Bref. Eh bien, écoutez, on va se quitter là-dessus. C'était notre émission spéciale Unicorn Overlord. J'espère que ça vous a fait autant plaisir qu'à nous, parce que c'est vrai qu'on s'est bien éclaté. Encore une fois, c'est le tactical du printemps, hein, ça fait plaisir. Peut-être que l'année prochaine, ce sera un tactical du printemps sur Switch 2. On sait jamais.
Oh, lol.
Voilà, on va vous abandonner ici. Je ne sais pas exactement ce qu'on fera dans deux semaines. Il y a Antix qui avait une petite proposition de derrière les fagots, mais j'ai pas envie de vous le dire. J'ai envie de vous laisser la surprise. Ça pourrait être rigolo. Voilà, quoi qu'il arrive, on se retrouve la semaine prochaine en podcast, dans deux semaines en direct. Ce vendredi, normalement, on va faire du Muramasa de Demon Blade.
Chouette.
Puisqu'il y a eu de l'Unicorn Overlord, on va enchaîner.
Hein,
on va
super faire jeu.
Super jeu qui vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Je vais essayer de partir d'une partie un tout petit peu avancée, histoire que... on est un truc un peu plus rigolo.
Au coup, un jeu très facile à faire sur Dolphin, puisqu'il n'y a pas besoin de faire du motion avec.
Eh oui. Jean, la semaine prochaine, continuera normalement, si tout va bien, les streams du côté avec du Metroid Prime. Voilà. Et voilà, on vous fait de très 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 gros bisous, et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde.
Ciao.
Bisous.